Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le lundi 15 décembre. C'est Noël dans une dizaine de jours. L'année est passée vite. Vous écoutez Flash sur le monde par Elise Mbok depuis le Cameroun. Nous allons rester au Cameroun, mais pas vraiment. Alors, rentrer un peu dans une forme de géopolitique, parce que vous savez très bien que la situation est bloquée au Cameroun, bloquée parce que le président, parce que les élections n'ont pas été transparentes. Voilà. Il y a eu un manque de transparence qui a donc généré une suspicion de fraude, mais même avérée carrément. C'est plus une suspicion parce que aucun chiffre ne correspond à aucun autre. Et donc, c'est pas. Ah, on digère mal cette proclamation de résultats qui, chaque jour passant, s'avère être complètement trafiquée au profit du président sortant, M. Paul Biya, dont on a donc envisager de mettre vraiment en lumière, et ça, c'était le but de la campagne déjà, pas le but de la campagne, c'était une forme de vérité, voilà, crue de la réalité, j'allais dire de l'État, mais non de la nation d'abord camerounaise. Et ça, on en a parlé sur l'état des routes, la diaspora a pris sur elle, parce que là, sans la diaspora, bravo, la diaspora, tout seul ici, il ne pouvait pas s'en sortir. Hein. C'est, le système est tellement fort, il a réussi à plier les gens qui vivent couchés, pas couchés, mais pliés, vraiment pliés. Les Chines, ils n'ont plus d'épines dorsales. Il fallait que la diaspora vienne apporter cette épine dorsale-là, pas avec du bruit, mais avec des faits crus sur la vérité du pays, parce que chacun aurait pu se croire que dans son coin, qu'il était le seul à subir ce mauvais sort. Mais non, c'est un sort partagé et qui démontre que c'est une volonté. Vous voyez, c'est une volonté. Comment je vais dire ça? C'est pas par hasard. Voilà. C'est un projet de société qui est conçu comme cela. Bon, on parle de la matrice, mais ici vraiment, ça s'appliquait sans qu'on le voie vraiment, puisque c'était des plaintes, des gémissements par-ci par-là qui ne faisaient pas système. Et là, quand on a vu ce système, on a compris que c'était systématique et systématisé. Donc là, ça change toute la donne parce que si c'est systématisé, ça veut dire que c'est le projet. Et chacun ressentait cela intuitivement. Et là, on l'a vu à l'œuvre avec les nouvelles technologies, l'état des routes. Mais vraiment, chacun se disait, oh là, il y a pire ailleurs. Vous savez, c'est comme on dit quand vous êtes malade, si vous allez à l'hôpital, vous allez voir pire. C'était ça. Donc du coup, la colère est montée en se disant, non, mais moi, je pensais déjà que moi, c'était, alors les autres, c'est encore. Il y a donc eu une fusion comme ça de toute la collectivité citoyenne qui s'est retrouvée dans les mêmes galères, et ça a convergé vers une explosion de rage qui font que les gens sont sortis, et même une participation plus importante, parce que ça aurait été pire, puisque les gens étaient blasés. Et là, pourquoi M. Tchiroma et pas quelqu'un d'autre? Bah, de toute façon, c'était le seul crédible, et aussi parce que les acteurs politiques, les activistes, les leaders d'opinion que je revendique, beaucoup d'autres personnes ont choisi M. Tchiroma à raison de l'expérience qu'il représentait. Il était le plus expérimenté, et malgré le fait que on n'est pas parfait, hein, malgré le fait qu'il était au gouvernement et qu'il sortait tout frais du gouvernement de 20 ans ou de 22 ans, je sais plus combien d'années il avait que ce gouvernement, certains ont dit, ah mais non non, c'est un bandit, surtout pas lui, il a été démissionné par le RDPC, le parti du pouvoir, pour venir encore enfumer les gens. Mais on sentait dans sa démarche une véritable volonté d'unifier, si on peut dire comme ça, les citoyens, ce qui est complètement à l'opposé de ce que le régime de M. Biya a toujours recherché, c'est diviser les Camerounais. Donc, il y a eu ce positionnement, on ne dit plus la paix, hein, parce que la paix, c'est un slogan qui endort tout le monde, ça ne veut rien dire. Et puis, quelque chose s'affaisse dans la paix. Pardon, c'est pas religieux, mais quand ça passe au plan citoyen et politique, la paix, c'est quelque chose qui neutralise les énergies et puis qui vous empêche même de vous affirmer. Ah non, non, regarde la paix, ça devient comme le poumon de Molière, vous savez, et le malade imaginaire, c'est-à-dire, bah, j'ai mal, qu'est-ce que vous avez? C'est le poumon, voilà, c'est ça, la paix, c'est devenu le poumon. Donc, à un moment donné, c'est une réponse qui ne peut plus satisfaire parce que ça devient pensif, ça devient un prétexte à ne rien faire, à ne rien demander, à ne pas demander des comptes au gouvernement et à regarder faire. Voilà, non, quand vous parlez, non, 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 vous voulez, à la diaspora surtout, vous voulez que le pays saute. Nous, on veut la paix, on ne veut pas des guerres civiles et blablabla. On ne veut pas de coup d'État. On n'est pas bien, mais quand même, c'est mieux que si c'était pire, si je peux dire ça. Comme si il pouvait y avoir un pire. Il faut vivre au Cameroun. Ça vous défigure parce que c'est une misère qui vous prend, une saleté qui vous prend par le visage et par la gorge. Je sais pas. Bon, c'est vrai qu'après, eux, ils sont bien. Bon, bref, on va pas parler des privilégiés. Du coup, nous sommes toujours dans cette situation. C'est vrai que sur le plan intérieur, on se dit que la terreur gouvernementale s'est appliquée et que ça s'est calmé un peu et donc il se passe plus rien, il n'y aura plus rien, sauf ça va, ils ont tout gagné. Ça, c'est un leurre. Vous voyez, c'est un leurre, parce que un trompe-l'œil plutôt, parce que figurez-vous que depuis le 6 novembre, le président qu'on ne voit plus, qu'on n'a pas revu depuis, hein, sauf par des photos interposées, mais ça, tout le monde peut le faire, c'est comme l'auto-peine de M. Biden qui signait tout seul. Donc, on ne l'a pas revu depuis. Il a dit qu'il allait promouvoir les femmes et les jeunes. De temps en temps, il y a un article qui sort pour nommer une femme par-ci, par-là, pour dire quand même qu'il fait quelque chose. Il est invisible. Le gouvernement qui devait démissionner tout de suite après les élections est toujours en place. On n'a bougé personne, pas de remaniement ministériel. Ouais, ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signaux qui ne trompent pas. Ils sont quelque part un peu ralentis aussi, freinés par l'excès de brutalité qu'ils ont opposée aux jeunes dans la rue, par les conséquences éventuelles qui peuvent survenir. La brutalité continue d'ailleurs, et aussi par le fait que maintenant que les diasporas sont levées partout, ce gouvernement, contrairement à ce qu'ils croient, ils sont attendus dans le monde entier par les diasporas. Donc, ils sont devenus prisonniers ici, au Cameroun, de leur propre incompétence, je ne sais pas ce qu'on va dire, leur propre fraude électorale. Ils sont prisonniers. Ils sont là. Ils ont beau jouer vous voyez, les gros bras, envoyer un caterpillar à les détruire. Vous voyez, comme les routiers peuvent faire grève, pardon, en France. Et qu'est-ce qu'on envoie? Des caterpillars pour dégager la route, bloquer la route. On voit les caterpillars, ils ont agi sans ménagement en poussant tout de côté, des camions chargés de marchandises. Oh, c'était horrible sur des routes. Alors là, pour le coup, comment dire, pitoyable, si vous voyez où les gros porteurs passent. Hein? Ce n'est pas des voies à double sens. Mais c'est étroite, je sais pas, ces gens, moi j'admire, c'est de maîtrise la conduite. Alors voilà, c'est ici, sur le plan local, on se dit, oh, ben, c'est foutu, Chiroma, il est en Gambie, il peut plus parler. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, toute révolution a besoin de guides. Il y avait peut-être un guide, les guides potentiels qui étaient trop près de lui. Il y a deux qui sont en prison, peut-être qu'on a sorti le professeur Owono, ou c'est Oyono, et puis il y a M. Georges Anissé Kani qui a été décédé parce qu'on l'a débranché, ça vous êtes au courant. Il y a un autre qui reste en prison, je ne sais pas c'est qui, ou alors il est sorti, je ne sais pas. C'est sa garde rapprochée, si on peut dire ça, des grands hommes politiques, c'est-à-dire ceux qui ont derrière eux beaucoup d'années de combat politique. Et du coup, Monsieur Tiroma n'a plus vraiment ici sur place quelqu'un d'aussi charismatique, on peut le dire, mais aussi d'aussi qui puisse prendre la place de leader, d'autant plus aussi que Monsieur Camteau pourrait faire cela, mais sauf que Monsieur Camteau, il a beaucoup de casseroles. Une en particulier, c'est lui qui a changé la constitution, je ne sais pas il y a combien d'années, on lui avait confié la mission avec d'autres personnes et ils ont. Ce sont eux qui ont mis en place cette histoire d'un président qui se représente de façon illimitée. Donc, quand il vient maintenant se présenter pour être candidat, c'est un peu rigolo. Alors, les autres, ils lui barrent la route. Monsieur Camteau, il n'a pas beaucoup d'espace, contrairement à ce qu'il pense. Et s'il insiste, on va l'arrêter. Parce qu'ici, c'est comme ça, c'est l'arbitraire. C'est tout. Si on vous dit vous vous taisez, vous vous taisez. Enfin, eux, les grands là-bas, peut-être nous encore, on a la possibilité dans les réseaux sociaux de s'exprimer parce qu'ils se disent qu'après tout, on n'est pas dans le pouvoir hein, viril, vrai, armé, et que les Camteaux, ils peuvent aller jusque-là. C'est ce qu'on soupçonnait d'ailleurs pour dire pourquoi on a arrêté monsieur le président du Manidem, c'est le nom de son parti, monsieur Anissé, qui est décédé. Ça, c'est le portrait. Ensuite, pour finir, sur la réalité locale qui se passe, je vous dis, c'est un trompe-l'œil, il a nommé le président élu, comme on l'appelle, Monsieur Tiroma, qui a commencé son exil, enfin son exil, on va dire ça comme ça, c'est provisoire, par un séjour au Nigeria. Et là, ça n'a pas donné, il est allé en Gambie. Et on est très heureux parce que quand même, on se rend compte que c'est l'association des peuls au monde qui l'a exfiltré, c'est incroyable. Donc, vous voyez toutes ces limites géographiques barbares qui ont été faites. En fait, toute cette partie du Nord est reliée à l'Ouest africain. C'est incroyable. Et l'autre partie du Sud serait reliée plutôt aux gens comme la Guinée équatoriale, le Congo, la RDC. Et on le voit très bien dans nos façons de fonctionner, qu'on est à l'origine pas vraiment des mêmes groupes ethniques, c'est clair. Et eux, les Peuls, et les Yaoussa, et les Fulbe, tout ça, ils ont cette proximité avec le Tchad, avec le Nigeria, avec jusqu'en Gambie, et on retrouve aussi au Burkina Faso, au Mali, etc. Donc, il y a une association très forte, donc on ne sait pas, Mauritanie aussi, parce que l'avocat le grand avocat qui conduit les autres de Issa Tiroma, c'est mauritanien. Moi, je me suis dit, mais quel était le rapport? Et là, j'ai mieux compris. Et dans l'association Peul, des Peuls, c'est des musulmans, c'est des gens qui ont d'autres valeurs que nous, pas beaucoup de traîtrise hein, et beaucoup de solidarité. Et on dit que le rôle de l'ex-président Macky Sall a été, c'est du Sénégal, a été prépondérant pour trouver finalement un pays qui avait vécu en plus la même configuration que celle du Cameroun, c'est la Gambie, où le président élu était allé en exil et est revenu victorieux. Alors on souhaite vraiment que ce schéma-là marche pour Tchiroma. Et il y a des signaux, il y a des signaux, mais toujours comme j'ai dit, monsieur Tchiroma a fait quoi pour quand même pas laisser, vous savez, la nature a horreur du vide. Il a nommé une porte-parole, Madame Alice Com, avocate des droits de la défense des droits humains. Elle a toute une carrière, elle a 80 ans, un peu plus âgée que lui, comme son porte-parole sur place au Cameroun pendant qu'il n'est pas là. Donc c'est elle qui occupe cette fonction-là. Elle était à Paris récemment pour parler avec les télévisions TV5 et tout ça de la France pour peut-être dire qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut dire. Parce que franchement, en ce moment, et ça, la communauté internationale, que je vais féliciter pour une fois, a compris, a pris les choses en main parce que le peuple est démuni. Ils n'ont pas préparé une telle résistance parce que franchement, il fallait des armes. Claire. Je le dis comme ça. Ou alors un courage de fou, comme au Népal, comme à Madagascar, comme j'ai lu toujours en Indonésie, pour aller tout brûler, pratiquer la politique de la terre brûlée. C'était les deux options. La terre brûlée, ça aurait dû être fait très rapidement, mais ça allait toujours être contrecarré par le BIR, ce qu'ils appellent la brigade d'intervention rapide, dont on sait maintenant que c'est un Israélite et qui l'a créé, ancien consultant, et qui est venu proposer cela au président Biya lorsque les Ambazoniens, vous avez entendu, la sécession La tentative de sécession du côté du nord-est, du nord-ouest, s'est manifestée pour, eux aussi sont proches du Nigeria, pour se séparer du Cameroun pour les raisons précises qui ont constitué le cœur de cette campagne. Alors, pourquoi Madame Alice Combe, au-delà du fait qu'elle a des réseaux internationaux, qu'elle est avocate, mais il y a surtout le fait que le président Biya, et là, c'est la transition avec l'international. Le président Biya a fait intervenir sa fille, Brenda Biya, qui est homosexuelle, enfin, c'est lesbienne déclarée. Elle est venue juste après les élections, parce que c'était le temps où il narguait tout le monde. Elle est venue avec trois copines brésiliennes dans un avion particulier, jet, tout ça, l'argent coulait à flot, les champagnes, logé au Hilton, le meilleur hôtel, enfin le palace, du moment où où on loge les présidents. Non, mais c'est hallucinant, faire un tour de LGBTisme et tout. Pourtant, le Cameroun ne reconnaît pas l'homosexualité. C'est même pénalisé. Qu'est-ce qu'il fallait donc faire face à cette débauche, vrai mot créé, hein, c'est ce que, enfin, la douche froide envoyée à ceux qui ont élu quelqu'un d'autre. Il fallait faire quoi? Il fallait opposer à cela une candidate comme, enfin une candidate, une personnalité comme Madame Alice Combe qui, elle, a dansé. Comment on va dire ça, dans son bagage, la protection des droits des LGBT. Bon, ça se neutralisait, mais pourquoi le président Biya a voulu faire ça? Il a voulu faire ça parce qu'il sent très bien que la communauté, ses amis de la communauté internationale auxquels il a vendu le pays, ne sont pas très d'accord sur. Ils ne peuvent pas. Renier ce qui apparaît de plus en plus comme une évidence et ce contre quoi il parle tout le temps à l'international. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait quand même sauver un peu les apparences. Personne n'a envoyé de lettre de félicitations. Donc, en diplomatie, le silence veut dire je ne suis pas d'accord. C'est la force, sa forme polie, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, le président s'est dit mais si je régularise cette histoire d'homosexualité, peut-être que, puisque, vous savez, à un moment donné, il suffisait que vous disiez que vous êtes pour l'homosexualité pour que la communauté internationale vous ouvre toutes les portes. Mais il a oublié que ça a changé. Il a voulu jouer la carte du LGBT+, qui a vraiment un épouvantail en ce moment pour tout le monde. Il n'a pas compris qu'il était en retard sur l'histoire. Mais M. Tchiroma a bien réagi, lui oppose aussi quelqu'un qui défend les droits. Donc on est un peu là à front renversé parce que Madame Alice Combe, qui est pour défendre les droits des homosexuels, alors que nous au Cameroun on dit non, c'est un peu, mais ça va. Du coup elle aussi, bon, elle est là, elle fait ce qu'elle peut, mais que peut-elle faire? Elle peut rien faire, elle peut pas lancer un mot d'ordre pour quoi que ce soit parce qu'on dira que c'est un appel à la résurrection et elle va être coffrée. Donc elle est limitée, mais déjà au niveau du symbole, symbole pour symbole, elle a réussi à annuler l'effet Brenda qui était terrible, qui arrivait avec des gros sabots, Brenda Biya bien sûr, et on soupçonne aussi que son fils Franck Biya, pareil, on l'a vu à Cannes avec un mec, et avant ça il y a une histoire avec le fils de Mendoza, il venait se marier à Las Vegas, bon bref, dans un avion, tout ça, bon bref, on connaît tout ça. Ce sont donc des gens qui sont adeptes de ce qu'on va dire la matrice, qui a érigé les Bardella et tous ces premiers ministres, les Macron, voyez, les Obama, les Jean Trudeau, premier ministre du Canada, en modèle, parce que c'était, comment dirais-je, mais ça c'est depuis, on le soupçonne, c'est le LGBT, le triomphe du LGBT. Ça, on met un peu de côté, on n'en parle plus. Alors, à l'international, les choses ont bougé. Les lignes ont bougé. D'abord, c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont mis, comment on va dire, ils ont frappé un peu du poing sur la table en posant des conditionnalités plus fortes. Parce que depuis, mais alors, je vous passe parce qu'il faudrait que j'écrive tout ça. Aujourd'hui encore, on trouve un trou de 9 milliards au ministère des Finances. On trouve que les projets que le Cameroun engage à partir des prêts pris contactés auprès du FMI ou la Banque mondiale ne sont pas suivis. C'est-à-dire que le détournement de fonds, c'est un puissant fonds. On ne les achève pas. Quand ils sont achevés, il y a une autre conditionnalité de poursuite des engagements financiers qui vont ajouter encore à la dette parce qu'il n'y a pas d'argent et ils ne sont même pas en service comme les péages. On découvre, bon, bien sûr, une dette abyssale et dont on ne voit pas très bien l'utilité au niveau du pays. Beaucoup, beaucoup de choses, des choses énormes. Et là, la Banque mondiale et le FMI disent que maintenant, il va falloir, premièrement déjà, il faut déclarer les biens des personnalités publiques qui entrent en service et qui seront en charge de la gestion des biens. Il faut déclarer, c'est-à-dire le patrimoine. Il faut qu'il y ait les conditions d'une transparence budgétaire. Vous voyez, ça devient clair et à la suite de laquelle il faut des sanctions claires. Parce que depuis, il y avait une opération qu'on appelait ici Épervier, qui quand même. Il y avait des sanctions qui emprisonnaient les gens, mais depuis, il n'y a plus rien. Ça, c'est déjà une conditionnalité qui est pas négligeable et pour laquelle on a le projet d'un autre barrage. Vous savez, ils enfilent des barrages à n'en plus finir et aucun n'est vraiment opérationnel à 100% parce que je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de transfert technologique, on n'en sait rien. Il y a toujours des conditionnalités sur conditionnalités. C'est un processus sans fin. Un barrage, ici, a un bébé qui cote. Qui doit, mais là, on a su la Banque mondiale pour le moment a suspendu le financement parce que ça va être pareil. Ils sont venus ici parce qu'ils ne sont pas loin de là où je suis. Ils ont procédé à des enquêtes sociologiques pour avoir une idée enfin, ça servait à quoi, je ne sais pas trop, hein. Peut-être pour dire qu'ils sont là. Après, ils ont dit qu'ils allaient employer du personnel, donc c'était aussi des campagnes de recrutement par-ci, par-là. Pour le moment, on ne connaît pas la suite parce que le projet n'a pas démarré. Et pour que ce projet démarre, il faut que la route, parce que les gros engins vont passer, il faut qu'il y ait une route. Il n'y a pas de route circulable, digne de ce nom. Donc la Banque mondiale et le FMI ont déjà quand même haussé le ton. Et ce qui est le plus marquant ce jour-ci, c'est qu'hier, j'ai vu un post ce matin, il faudra vérifier, que les Nations unies ont voté, ont adopté le 14 décembre comme la journée contre le colonialisme. Vous vous rendez compte? Contre le colonialisme. Enfin, et parce que c'est un système de pillage organisé et que le néocolonialisme poursuit. Donc là aussi, il va y avoir une autre façon de regarder les choses sur le prisme de ce colonialisme et de ce néocolonialisme. Voilà, vous vous souvenez, on a parlé ici du discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, qui dit des choses, quand vous lisez ce livre, vous êtes obligé de décréter une journée contre le colonialisme et vous êtes obligé, si vous avez une conscience morale, de dire que le néocolonialisme qui continue les mêmes pratiques est lui aussi sous la loupe. Donc il y aura cette journée qui va être l'occasion de. Alors là, ça va être. On va tout dévoiler. Et ça, c'est une façon de dire, quand on parle du colonialisme, ça nous ramène à ce qu'on avait dit au début sur la superstructure qui guide le monde. Et cette superstructure, on en a des aperçus, hein. C'est vrai qu'on dit que c'est la Banque mondiale, c'est les Nations unies, c'est le FMI, que c'est tout du pareil au même, mais quand même en détrônant le colonialisme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas dire un nouvel esclavage, on fait beaucoup, ils font beaucoup, ils sont sur la bonne voie pour démanteler la matrice qui est basée sur l'esclavage et le colonialisme et l'occupation. Et vous voyez comment notre regard va déjà vers Gaza et la Terre promise, et on apprend que plus de 1 000 pasteurs américains ont tout frais payés par Netanyahou pour visiter la Terre promise et Israël. En échange de quoi, ils doivent s'engager à défendre tous ceux qui vont s'attaquer au sionisme, vous vous rendez compte, et à dire du bien d'Israël. Alors, plus de 1 000 pasteurs évangéliques. Alors, leur mission, c'est de faire ce travail-là vis-à-vis des fidèles et aussi vis-à-vis des jeunes publics pour que dès très très tôt, les jeunes publics sachent qu'il ne faut pas critiquer Israël. C'est-à-dire de partir maintenant, en même temps qu'ils faisaient, ils le faisaient aussi au niveau des politiques qui avaient juré d'être sionistes à vie, c'est-à-dire de défendre Israël coûte que vaille. Mais vous savez bien qu'on est en train Le maire, l'élection du maire de New York a bougé un peu, vraiment beaucoup de lignes, et c'est terrible. Donc, voilà, la religion qui entre dans la politique par cette petite porte de la corruption et du tourisme, on dit religieux, mais en fait, c'est un tourisme. Vous voyez un peu ce que je vais dire, on va pas insister là-dessus. Il y a donc des signes comme ça qui bougent. Les pasteurs évangéliques en question aux États-Unis s'y sont identifiés à la liste. À ceux qui vont, les fidèles, ils verront. Hein. Et c'est donc la propagande qui continue pour faire en sorte que des choses inadmissibles puissent se produire. Toujours dans cette lignée de l'international qui bouge la superstructure, si c'est Interpol, il paraît que le président Biya, enfin le gouvernement a demandé qu'on puisse. Il a émis un arrêt. Comment on dit ça, d'arrestation internationale, je ne sais pas comment on dit, mandat d'arrêt international contre la personne de Monsieur Tchiroma, mais apparemment, Interpol a dit, mais quel est le crime du monsieur? Parce qu'Interpol, ce n'est pas quand même l'arbitraire. Il a fait quoi? Il a tué quelqu'un? Il a violé le code enfin, le code de procédure, je ne sais pas, pénal. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il n'y a rien, donc on ne peut pas le suivre. Désolé, Monsieur le Président. Circulez, allez voir ailleurs. Bon, on va pas, on peut radoter pour vous dire les scandales, c'est pas la peine, c'est monstrueux, on ne parle même plus, je sais même plus où j'en ai marqué, mais oui, ça va. L'essentiel, c'est que la France aussi, qui joue toujours au double jeu, oui, c'est qui est important, qui n'a pas voté aux Nations Unies, il faudra regarder la journée du 14 décembre, qui n'a pas voté, bien que ça soit passé, ben, il y a la France, bien sûr, les Britanniques, bien sûr, le Canada, bien sûr, l'Australie, bien sûr, enfin tous ces pays, l'Allemagne, je crois aussi, tous ces pays qui sont impliqués dans la superstructure et qui ont été des pays, des grands pays colonisateurs, ils ont voté contre, mais c'est pas grave, le texte est passé. Et c'est honneur à la Chine aussi, la Russie, les pays du Sud qui sont probablement les auteurs de cette résolution-là. On est content, on est content. Donc là, bon, la Russie ici, avec le groupe Wagner, bon, on ne sait pas trop ce qu'ils font. La Chine aussi qui est impliquée dans des projets de confiscation des richesses, je ne sais pas trop. Bon, on a le temps de voir. Mais si déjà ils agissent au niveau diplomatique, il y a une victoire diplomatique pour le Cameroun, c'est ce que je voulais dire, vraiment clair, c'est très bien. C'est très bien. On est pour la crise au Cameroun, pour le début de résolution de la crise au Cameroun, c'est très très bien. Les signaux diplomatiques sont forts. Ah, quelqu'un a dit le Cameroun, on commence à chuter, hein, c'est 70% des chômeurs, du chômage des jeunes, c'est 90% du système économique informel, vous vous rendez compte? Bon, la dette est abyssale, on n'en parle pas, mais seulement, et la corruption aussi, et puis la gestion, comme on a dit, de la gouvernance, c'est sans tête ni queue. Alors, à ces deux chiffres-là, vous dites tout de suite c'est quoi ce pays? Si vous avez 70% de jeunes au chômage, alors que les vieux travaillent, c'est qu'il n'y a pas de travail, parce que le Cameroun est désindustrialisé. Alors, d'où vient le travail? Productif, il n'y en a pas. Si vous avez 90% des gens qui sont dans le réseau informel, circuit informel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impôts qui rentrent. Voyez? D'où un tel pays va-t-il tirer des revenus pour assurer ses missions régaliennes? Et pourquoi il n'y a pas d'impôts? Parce qu'il y a un système fiscal lourd, décourageant, qui fait que les gens n'y vont pas. Ça aussi, ça a toujours la gouvernance et du coup, ils n'ont pas de fonds propres. Ils sont obligés de fonctionner. Enfin, ils auraient pu avoir du fonds propre. Il y a quand même les matières premières qui sont exploitées. Il y a le cacao. Comment je dis? Il y a, bon, le pétrole surtout. L'argent est détourné. Il y a beaucoup de choses. Mais si encore les prêts qu'ils consentaient servaient à quelque chose, mais ça va servir à quoi? Puisque il n'y a pas de projet d'industrialisation. Tout a été industrialisé, y compris la compagnie de la banane. Dans le domaine agricole, vous savez, on commence quand même le développement par le secteur agricole. Quand vous venez vendre la compagnie camerounaise de bananes à un groupe français qui a le monopole de l'exportation de la banane, moi je suis un peu dans la banane en ce moment, le petit paysan est perdu. Enfin, l'agriculteur, il ne peut pas concurrencer ça. Donc, ils font un peu comment? Ils laissent le marché local peut-être aux locaux, aux petits producteurs, et puis eux, ils amènent tout ce qu'il faut. Mais la banane à l'international, c'est un marché énorme pour l'Afrique, rien que pour ça. Et il y a d'autres secteurs comme ça. Ils ont tout privatisé, mais c'était aussi les conseils du FMI de 1990, lorsqu'ils procédaient aux ajustements structurels, qui avaient conseillé la privatisation de tout, et ils ont tout privatisé, mais. En échange de quoi? Du fait qu'eux, ils puissent détourner l'argent facilement. Effectivement, le FMI était piégé parce qu'il y a un conseiller de privatiser. Quand les gens volent l'argent, c'était un peu. C'est le schéma ukrainien en ce moment avec Zelensky. Au prétexte de la guerre, ben, il endette le pays, il s'en fout. Et puis eux, ils s'enrichissent de yachts et tout. C'est la matrice. Bon, je termine. Je termine. Il y a une chanson que j'écoute en ce moment, c'est Joy to the World. Joy to the World, the King has come. Ou j'ai même vu ça, j'ai écrit les paroles là, je ne les trouve plus. Let heart receive her King. Let every heart prepare him room and every nature sing. And every nature sing. And even and heaven and nature sing. Ça, c'est déjà la joie. Hein? On est à Noël. Bientôt, bientôt. Bon, alors, on termine et on dit moi, je m'installe bientôt, parce que là, je retrouve quand même un peu le nord. Hein. Je suis venu ici dans des conditions traumatisantes. Je retrouve le nord, je m'installe comme consultante. En janvier, là, j'aurais dû le faire avant les élections. Ça aurait été, je ne savais pas qu'on arrive à quelque chose d'aussi horrible. Moi, je me suis dit, au bout de 43 ans, oui, ça va, ils vont passer la main. On n'a qu'à appliquer la science électorale et puis c'est bon, c'était de tout cuit, non. Nous, on n'était pas là. L'absence du territoire fait qu'on n'a pas vu à quel point ce gouvernement était des voyous. Alors, moi, les gens font des propositions pour la sortie de crise. C'est vrai que j'ai pu dire que c'était non négociable, on est dans la rigidité, oui. Bon. Après, on respire. On respire un bon coup parce qu'on voit bien qu'en face, on a réussi quand même aussi. Ils nous font prisonniers, mais nous aussi, on a pris des prisonniers. Vous voyez, c'est la guerre. On a fait prisonnier le gouvernement camerounais et quiconque sera élu sera inclus dans la liste, c'est-à-dire pas élu, nommé. La diaspora va laisser, ils vont les traquer. Voilà, donc on est là dans un équilibre, la terreur, c'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Et puis vous voyez comment la diplomatie essaie d'aider. Il semblerait que Macron, je sais pas trop comment faire, mais bon, bon, de toute façon, lui, De Villepin a dit qu'il était d'une incompétence abyssale. J'ai adoré ça. Moi, je propose, parce que les gens proposent des sorties de crise. Et M. Tiroma est déjà en train de s'embrouiller aussi. Il veut faire le plan Camteau qui a refusé, qui a boycotté les élections, sachant très bien que si vous boycottez les municipales et les législatives, il a boycotté les régionales. C'était le 30 novembre. Bon, là, c'était compliqué parce que c'est un scrutin indirect où ce sont les conseillers, vous savez, ceux qui sont déjà en place, qui votent leurs petits copains. Ce n'était pas la peine. Mais il y a des élections l'année prochaine, les municipales et les législatives, c'est très important. Et je lis là que. Oh non, tant qu'on n'a pas réécrit la Constitution, il va pas y aller. Non, c'est ce que M. Camteau avait fait et puis il ne pouvait plus se présenter. Les élections municipales et législatives sont justement le test clé qui va, comment je vais dire, détendre complètement, régler la question de la fraude électorale parce que là, ça sera pas, ça va pas se passer comme ça. Si les Nations Unies sont sérieuses, elles viendront. avec cet esprit nouveau. Si l'Union africaine, qui dit d'ailleurs que le Cameroun est mis en marge en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas payer leur cotisation, l'État en faillite, hein, les caisses sont vides. Si, avec toute cette prise de conscience internationale et citoyenne, et pas si, ça sera là, il n'y aura pas moyen de frauder. Non, pour une fois, on aura une élection transparente. Il faut donc faire ces législatives et ces municipales parce que justement, c'est le canal du changement qui va permettre même probablement de faire tomber le régime. C'est facile, comme bon, je ne peux pas dire qu'ils s'abstiennent. Non, il faut aller à l'élection. Le parti doit aller à l'élection. Alors, moi, avant qu'ils ne disent, j'ai pensé à tout ça, mais quand ils disent non, je dis non, non, ça ne va pas. C'est la première étape. Une fois qu'ils font cette élection, parce que là, l'élection, c'est l'année prochaine, c'est 3-4 mois. C'est déjà là. Il est déjà en exil, il peut attendre. Une fois qu'on a cette élection, ou bien avec cette élection, on projette qu'il y ait une période de 6 mois au cours de laquelle il faut rejouer le match de la présidentielle. Parce que cette élection va permettre, ça va être la preuve, par A plus B, vous voyez, qu'il y a eu la fraude. Et là, on projette, même avant les résultats de cette élection, projetons un remake de l'élection et que la Banque mondiale, le FMI, les Nations unies, tous les gens de bonne volonté mettent l'argent. Si le Cameroun dit qu'il est en faillite, ben, qu'on prête l'argent, mais qu'on refasse cette élection, qu'on fasse un remake qui sera clair, transparent, codé, défini. Mais ça, on peut le faire sur 6 mois. C'est une histoire de rapide, dans 6 mois. C'est une histoire, pardon, rapide. Et c'est une sortie de crise honorable. Et là, on verra qui a gagné. Et ça sera clair comme l'eau de roche. Bon, alors, si on reste dans ce système où on subodore que le président Biya n'a plus longtemps à vivre et peut mourir d'ici 2027, lorsque M. de Villepin viendra, ou M. de Villiers, ou je sais pas, il y a des candidats très importants maintenant qui ont l'avantage d'être hors parti. Les partis politiques, c'est le problème. Il faut un candidat présidentiel qui soit même pas trop encarté parce qu'il pourra pas viser le cœur de la citoyenneté. Il sera pris par l'idéologie, par-ci, par-là, ça va pas jouer. Ça, c'est ce que moi je peux proposer comme solution, mais il faut déjà aller aux élections. D'ici 3 mois, je ne vois pas comment, même si M. Biya mourait, comment ça va se faire. Là, nous sommes kiff-kiff, 50-50, personne ne bouge. Chacun ses prisonniers. Il n'y a pas d'échange de prisonniers. Ils ne viennent pas en Europe. Nous, si ils disent qu'on ne vient pas ici, la diaspora, on ne vient pas. Encore que moi, je suis ici, mais moi, je suis un enfant du pays depuis. Hein. D'ailleurs, je suis allé en France. J'étais boursière du gouvernement de l'État camerounais, qui m'a doublé parce que moi j'ai été en France pendant, j'ai pu faire mes études facilement. Moi je dis merci à cause de cette bourse-là. Et par la suite, c'est la France qui a la coopération française qui a payé nos bourses parce qu'il y avait déjà des crises incroyables ici. Le Cameroun s'était déclaré défaillant financièrement. Le contrat prévoyait que je revienne ici. J'ai 10 ans d'activité obligatoire dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, ils ont dénoncé les accords comme ça. Démerdez-vous, faites comme vous voulez. Et puis, ciao, au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'ai même de quoi porter plainte contre le gouvernement camerounais pour abus. Alors, quand je suis ici, il ne faut pas m'emmerder. Voilà, faut pas m'emmerder parce que quand j'arrive, on commence à me dire, vous n'avez pas le droit de travailler. Ah! Monsieur Tiroma, qui était le ministre de la formation professionnelle, oh, ces étrangers qui travaillent sans permis de travail, tout ce qu'il fallait, c'est que je revienne en France, que je fasse un visa autorisant à travailler. Attendez, on est la diaspora ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On nous traite ici comme si nous étions des étrangers. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que là, la cause, elle est quand même très importante. Et ce qu'on fait là, c'est même au-delà du Cameroun, c'est au-delà de l'Afrique. Et vous voyez, ça a des répercussions sur le monde. Nous sommes un peu, le cas du Cameroun, et vraiment là, c'est le mot de la fin, nous sommes à l'avant-garde du combat sur le nouvel ordre mondial. Nous sommes à l'avant-garde du combat contre la matrice. Et nous avons exactement les mêmes problèmes que la France. Ou plutôt, c'est la France qui... C'est terrible, a les mêmes problèmes que nous. Et en passant, Monsieur Macron a envoyé l'armée nigériane, on ne sait pas comment il a fait avec ce président Tinubu, pour aller casser le coup d'État qui a eu lieu au Bénin, parce que Monsieur Talon, c'était son meilleur ami, le président du Bénin, qui parle d'ailleurs. Ils ont cassé le coup d'État, l'armée nigériane est venue, et en revenant, en rentrant, il y a un avion qui est passé par le Burkina Faso, que le Burkina Faso a intercepté et cloué au sol avec les mercenaires. Donc, affaire à suivre, puisqu'ils essayaient de faire quelque chose comme un espionnage, et probablement que le Burkina était visé aussi. Et quand la France continue ce projet de venir diviser au sein des peuples entre eux en faisant jouer l'ethnicité, voyez, en exacerbant, parce qu'on a ce problème au Cameroun, l'ethnicité, c'est terrible. Ceux qui sont au pouvoir, ils disent qu'ils partiront jamais, c'est un groupe ethnique contre tout le peuple, mais on n'est pas dans l'État, on n'est pas dans la démocratie, je sais même pas dans quoi on est, même pas la préhistoire. Parce que c'est la préhistoire, on prend tous les flèches et les lances, on y va. Et quand on voit encore que ça continue à jouer un chef d'État, un pays, et Tinubu, le président du Nigeria, fait cela sans l'avis du Parlement. Là aussi, c'est des parlements godillots, là, qui ne valent rien. Comment un président peut prendre une décision comme celle-ci d'aller intervenir? Le Nigeria, ce n'est pas l'Union africaine. Son armée n'est pas. Vous ne pouvez pas aller dans notre pays pour. Enfin, s'ils voulaient intervenir, nous, on était déjà à côté, on est plus proche. Et ils n'ont jamais pu. Et il paraît que le président Tchekouma aussi, il est pour la paix, ancien, c'est son côté ancien, il veut pas trop. On lui aurait proposé, il veut pas encore tuer les gens. Bon, on n'en est pas là, on n'en est pas encore là, parce que quand c'est la guerre, ça devient autre chose. Il faudrait que c'est nous-mêmes qui la fassions, quitte à ce qu'on nous aide, mais pas que ceux qui viennent de l'étranger donnent le tempo et nous on suit. Non, ça sera du grand n'importe quoi. Donc on est là dans des questions stratégiques, de fond. Les lignes ont bougé. Et comme je vous dis, n'écoutez pas l'extérieur, c'est l'équilibre de la terreur. Monsieur Biya, ce mandat, il n'ira pas loin avec ça. Et l'avenir nous dira. On va laisser comme ça, l'avenir nous dira. Et moi, je vous laisse toujours sur la chanson hein, de Joy to the World, The King Has Come. Et donc, Nature and Heaven Sing, c'est ça. Donc, on prépare Noël tranquillement, dans le calme. Peut-être qu'il y aura des surprises, mais il y a une voie de sortie institutionnelle qui est claire. Ça peut être résolu. On retient ça. Dans 6 mois, un remake. Avant cela, il fait des élections. Il va aux élections municipales et législatives. S'il a une majorité au Parlement, le gouvernement tombe. C'est fini. Amis des radios Silence, vous avez écouté Flash sur le monde. Je ne sais pas si je l'ai dit, par Élise Mbok. Je vous dis à bientôt. Joy to the world, the Lord has come.